en évoquant la variété des techniques de l'école moderne, Freinet montre les multiples approches possibles d'une pédagogie pourtant unitaire, ainsi que la diversité d'un mouvement auquel la coopération donne une incontestable cohésion.
À la base de toutes nos recherches, il y a ce fait que toutes les explications théoriques n'ont pas une grande portée, que apprendre quelque chose par cœur ou théoriquement ne fait absolument pas avancer les problèmes, qu'il nous faut donc trouver d'autres voies. Et alors nous avons cherché ces autres voies. Il faut découvrir d'autres techniques de travail, d'autres outils de travail. Et c'est dans la mesure où nous avons découvert ces outils de travail, nous les avons réalisés, que nous avons changé notre pédagogie. L'imprimerie à l'école n'est pas seulement une technique de travail manuel, ça c'est vraiment ce que nous appelons par suite l'expression libre. Pour expression libre, il ne suffit pas de dire tu vas faire ce que tu veux ou tu vas écrire, non. Il faut trouver un moyen qui permette à l'enfant de vraiment s'exprimer en profondeur, non seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il sent, ce qu'il désirerait. Et ça, ce sont nos techniques qui l'ont développé peu à peu. De sorte que l'expression libre est une des grandes conquêtes de notre pédagogie. Évidemment, il faut que l'enfant ait le goût d'écrire quelque chose, de dire quelque chose, de s'exprimer. Pour cela, il faut donc qu'il ait la possibilité de parler. Et il faut qu'il ait des gens qui l'écoutent ou qui le lisent. Sinon, il parlera bien un moment tout seul, mais après, il sera vite fatigué, il ne dira plus rien. Lorsque nous imprimions, les enfants avaient envie de faire lire ce qu'ils avaient vu, le porter à leurs parents. C'était déjà un succès. Le journal était vendu dans le village. C'est déjà quelque chose. L'enfant avait l'impression que ce qu'il faisait n'était pas un devoir. C'était quelque chose qui pouvait intéresser des gens autour de lui. Mais le jour où nous avons eu la première correspondance, c'était encore plus émouvant. Et alors, le circuit qui à l'origine était simplement autour de l'enfant dans son milieu, s'est éloigné, le circuit est allé jusque au fond de la France. Et après, alors, nous avons continué à chercher d'autres techniques, et nous en sommes arrivés maintenant à une vingtaine de techniques qui peuvent toujours permettre cette expression libre de l'enfant. Parce que nous sommes partisans des méthodes naturelles. Nous disons que l'enfant doit apprendre à l'école toutes les disciplines exactement comme il les apprend dans la famille. Simplement en agissant, en expérimentant, en tâtonnant, en écoutant ses parents, les interrogeant, voyant le monde autour de lui. C'est toujours ainsi qu'on apprend quelque chose. Alors nous avons tout un tas de techniques qui permettent ce tâtonnement, mais il est indispensable. Et nous recommanderons toujours de partir du travail effectif de l'enfant. Nous suscitons ainsi le besoin pour l'enfant de travailler, de s'informer. Il gardera sa curiosité, alors il veut connaître, il veut faire. Alors à ce moment-là, nous lui donnons des procédés, des techniques. Nous avons été les premiers à user du cinéma. Nous avions un petit cinéma, le Pâté Babi, tout à fait dans nos débuts, qui malheureusement n'existe plus. Nous filmions des petites bandes de 20 mètres. D'abord, les parents les voyaient. Nous envoyions ces bandes à nos correspondants. Et eux nous en envoyaient aussi. Lorsque nous recevions ces bandes, le gosse, il voyait, regarde là-bas, c'est Pierre, ça c'est mon correspondant. Et là, Louis et tout ça. Et alors, il vivait les choses-là. De même qu'actuellement, lorsqu'on fait l'échange de photographies, on imagine mal justement la répercussion psychique, pour ainsi dire, de cet échange et de correspondance et de photographie. Lorsqu'il reçoit une communication magnétophonique, c'est son ami qui lui parle. Ça, il ne lui parlera pas longtemps, ça n'a donc pas d'importance. Mais on a créé un nouveau circuit de vie, alors que la pédagogie traditionnelle arrête, coupe tous les circuits. Alors que nous suscitons la vie. Les textes sont avant tout affectifs. Et ils doivent être affectifs, parce que si au premier stade l'enfant raconte seulement que je suis allé à la foire, j'ai vu un cochon, j'ai vu un âne, ça n'a pas d'importance. Ce qui intéresse lorsqu'il va à la foire, c'est comment il est parti, pourquoi il est allé avec ses parents en cours de route, j'ai rencontré celui-là, et puis là-bas, toutes ces choses qui l'émeuvent, et qui l'émeuvent toujours, et qui émeuvent ses correspondants. C'est la qualité de nos textes, c'est justement cette affectivité. Et toutes nos techniques sont émouvantes par cette affectivité. La peinture d'enfants, pourquoi l'avons-nous tellement développée? Parce que c'est le moyen le plus merveilleux, le moyen ancestral de communication entre les individus, non seulement du tout près, mais à travers le temps et à travers l'espace. Puisque depuis nos grottes de Lascaux, et le dessin a été intercommunication. L'enfant, donc, dessine, mais la même chose, si vous ne le laissez pas s'exprimer librement, si vous dites, oh, regarde, ça c'est mal fait, oh, il faut que tu le refasses. L'enfant ne fait plus rien. Il y a barrage immédiat. Les techniques d'apprentissage scolastique sont toutes fausses. Heureusement, il y a la vie. Lorsque l'enfant quitte la classe, il a la famille, il a la rue, et c'est là qu'il fait ses expériences. Alors, à l'école, il ramène ce que lui a enseigné la vie, ce que lui a enseigné la famille, ce que lui ont enseigné les autres camarades. Et le maître croit que c'est lui qui lui a enseigné ça.
Parmi toutes ces techniques, la dernière en date est certainement la technique des bandes programmées ou des bandes enseignantes.
Oui, mais nous avons fait avant une infinité d'expériences parce que les bandes programmées, c'est délicat parce que ça risque de déborder justement toutes les techniques essentielles et de laisser croire à certains qu'on peut mener l'enfant quelque part avec les bandes, alors que chez nous, les bandes enseignantes sont le complément de l'expression libre de l'enfant.
Quel est le nombre approximatif d'instituteurs qui travaillent très directement avec vous et en liaison?
On me pose toujours cette question à laquelle on peut difficilement répondre. Le nombre de nos adhérents se chiffre davantage par ceux qui peu à peu gagnent notre esprit que par ceux qui appliquent intégralement nos techniques. Il y en a qui appliqueront quelques-unes de nos techniques d'une façon merveilleuse, mais qui n'appliquent pas les autres. On n'est pas obligé d'appliquer toutes les techniques. Et l'avantage justement de notre pédagogie, c'est que nous ouvrons des voies. Mais nous ne disons pas à quelqu'un, tu dois passer par cette voie. Au contraire, nous ouvrons à toutes les initiatives 1, 2, 3, 5, 10 possibilités. Et alors chacun s'avance dans ses voies selon un peu ses tendances, son affectivité, ses possibilités, sa préparation technique. Et alors il y en a qui partent dans notre pédagogie, par exemple, avec la peinture d'enfants. Ils n'ont rien fait d'autre, et puis ils se mettent à peine, et puis ils découvrent tout le reste peu à peu. D'autres partent avec simplement la correspondance, manuscrite, et puis après, peu à peu, ils achètent un limographe, puis l'imprimerie. D'autres partiront avec de la gravure de linoléum. Et un jour, l'instituteur, ça lui plaît de graver de linoléum, il est un peu spécialiste là-dedans. Et alors il se dit, oui, maintenant on va l'imprimer. Alors il achète pour imprimer son linoléum, et il est parti ainsi. D'autres sont scientifiques. Ils se mettent à faire des expériences. Mais ensuite, pour communiquer ces expériences, ils atteignent toute la pédagogie. Nous avons les chercheurs historiques qui font des fouilles ou qui étudient le milieu pour justement replacer l'enfant dans son milieu vivant. Et puis, ainsi, peu à peu, et ils en viennent à toute notre pédagogie. Nous ne sommes pas justement groupés autour d'une méthode que nous disons immuable. Nous cherchons des possibilités de travail.